au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici mes frères, parvenus au terme de l'année liturgique, et puisque l'année liturgique récapitule en 12 mois l'ensemble de l'histoire de la rédemption, vous savez, la symbolique du nombre 12, il s'agit d'une plénitude, les 12 fils d'Israël, les 12 apôtres, les 12 étoiles qui sont sur la tête de cette femme dans l'Apocalypse, au chapitre 12e. Voilà donc que, en 12 mois, l'ensemble de l'histoire de la rédemption est récapitulé en miniature par la liturgie. Il n'est donc pas étonnant qu'au terme de cette année, eh bien, on ait l'évocation par le Seigneur Jésus, la présence de la liturgie, de la fin des temps. Ce type de récit auquel on donne le nom d'Apocalypse, qui signifie en grec dévoilement ce qui doit advenir, eh bien, ce type de récit n'est pas propre au Nouveau Testament. On s'égare parfois en considérant qu'il n'est d'Apocalypse que chrétienne. Or, en l'espèce, le Christ et les chrétiens n'ont rien inventé. Il en existait chez les païens, notamment chez les Perses, mais également chez les Grecs, et il en existait, bien sûr, chez les Juifs. De cette similitude entre une littérature apocalyptique chez les païens, chez les Juifs et chez les chrétiens, certains commentateurs, certains érudits, ont cru pouvoir conclure que finalement, il n'y avait pas de grande différence entre ces trois religions. Cette année de conduite en deux hommes, sans doute, était surtout de ne pas considérer le saut qualitatif qui existe entre l'apocalypse juive et l'apocalypse païenne, et surtout entre l'apocalypse chrétienne et l'apocalypse juive. Pour les païens, l'histoire est au fond conçue comme, vous le savez sans doute, un grand cycle. On se fait une conception cyclique de l'histoire. Cette histoire est lue par une logique aveugle, étrange, auquel on donne le nom de Fatum, qui a donné en français fatalité, ou encore de destin. Destin qui est inhérent à l'histoire et qui est inhérent au monde qui nous entoure, c'est une sorte d'arcade qui court sous les forces des choses. Et ce qui est étonnant, c'est que, à l'égard de ce destin, cette logique inhérente à l'histoire est inhérente à ce qui est sous nos yeux, ni les dieux, ni les hommes n'avaient réellement pris. L'Apocalypse des païens est tributaire de ce double constat qu'on fait dès qu'on a l'âge de raison et qu'on est capable de constater comme on tourne le monde. Ce double constat, c'est que à la fois tout passe, les choses se succèdent les unes après les autres, et en même temps, et paradoxalement, rien ne change véritablement. On est donc avec les païens dans une conception de l'éternel retour. Tout passe et en même temps rien ne change. Évidemment, cette conception des choses est totalement désespérante, et on comprend que les païens aient cherché, à l'aide de toutes sortes de subterfuges, à échapper à cette fatalité. Les héros se dressent, et c'est ainsi qu'on conçoit le héros, contre la fatalité, en même temps qu'ils se font écraser par cette fatalité. Bref, je ne suis pas là pour faire un cours, on ne serait d'ailleurs incapable en n'ayant pas les compétences, tout en détail sur cette vision des choses. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'Apocalypse païenne est tributaire de cet éternel retour. Au fond, il n'y a pas de point oméga vers lequel s'orienter, c'est sans cesse la même chose qui recommence, et l'être humain doit essayer de pallier cela avec parfois une conception de la vie humaine qui procède à mode de métempsychose, c'est-à-dire de réincarnation. Petit à petit, on a tout de même un progrès, parce que de l'animal où on était préalablement, on devient une femme avant que de devenir un homme. On ne veut évidemment lever aucune polémique, mais c'est un peu comme ça qu'on se fait les choses chez les païens. Je blâme bref. L'apocalypse, lui, bien sûr, jouit d'un saut d'esprit. Elle est marquée par une grande nouveauté, puisqu'elle repose sur une conception non plus cyclique de l'histoire, mais linéaire. Et il fallut pour cela que l'homme en vienne à comprendre cela, pour qu'il sorte de ce cycle infernal, que Dieu lui-même lui révèle que l'histoire était linéaire. Et que Dieu en était le maître absolu. Maître absolu du passé, du présent et de l'avenir, d'où il tire son nom d'éternel, ce nom qui revient sans cesse dans l'Ancien Testament. Et c'est la grande révélation qu'il fit à Moïse au buisson ardent lorsqu'il se présenta comme celui qui est, je suis celui qui suis. Autrement dit, je suis l'Éternel et j'ai tout dans ma main et je n'ai que bienveillance à l'égard de mon peuple, que je veux tirer de la servitude d'Égypte, etc. Dieu conduit l'humanité vers un terme au fil d'une histoire sainte du couple, parce que c'est Dieu, le seul, l'unique, l'éternel, qui a dans sa main l'histoire à la main de la sainte, et se déploie dans cette histoire toute une pédagogie pour amener les hommes vers un progrès toujours plus grand et vers une union avec lui, Dieu. Seulement voilà, s'il y a un progrès en matière d'apocalyptique, lui, par rapport à la conception que se faisaient les païens, elle est encore cette conception tributaire de certaines limites. Elle souffre d'insuffisance. Premièrement parce que le terme de l'histoire pour les Juifs, et à l'époque même du Seigneur Jésus, on en était encore là, est assez obscur. C'est assez obscur que cette fin de l'histoire, comme en témoigne, je vous le rappelle, ce désaccord fondamental qui existe entre les Sadducéens et les Pharisiens, auxquels fait allusion l'Évangile. Vous savez que les Pharisiens croyaient en la vie après la mort et en la résurrection des corps. Les Sadducéens, eux, qui n'étaient pas n'importe qui, mais une des grandes parties, une des grandes cartes, une des deux grandes cartes du peuple élu, étaient persuadés qu'il n'y avait ni vie après la mort, ni a fortiori résurrection. Vous voyez que la conception du terme de l'histoire est tout à fait étonnante. Mais c'est le cas que lui s'entende pour dire que c'est l'avenu du Messie, qui n'est qu'un homme, un homme providentiel, formidable, mais un homme seulement, qui marquera le début de la fin des temps. Il suit alors sans cesse les prophéties de l'Ancienne Alliance pour savoir le grand précis de cette venue. Ça leur importe, parce que l'avenu du Messie coïncide avec la fin des temps. Et chez les Sadducéens, ça les résultat, puisque la fin des temps, ça veut dire pas de vie après et pas de résurrection, et pour les Pharisiens, tout au contraire, on attend une résurrection. Et vous voyez qu'on en est encore en perception à part près des choses. D'autant qu'un certain déterminisme marque encore toute la culture juive. Si on échappe à la dimension cyclique de l'histoire, néanmoins, il existe une fatalité dans la mesure où l'on est dans tel cas ou dans tel autre, comme en Inde, et que l'on ne peut pas sortir de cette caste-là. Pharisien tu nais, pharisien tu restes, sadducéen ou samaritain tu nais, samaritain ou sadducéen tu mourras. Vous voyez cette difficulté de concevoir que les choses sont mouvantes au gré de la volonté divine. Ou encore, on conçoit le salut seulement pour ceux qui descendent d'Abraham. Les païens, eux, sont voués à retourner au Sheol, cette espèce de néant étrange qui doit advenir après. Saint Paul montre la nouveauté de la nouvelle chrétienne dans les livres que nous venons de lire. Voilà comme il le dit, Dieu nous a arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transformés, transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption. Voilà ce qu'il y a bien avec l'incarnation. Nous sommes enfin arrachés à l'emprise des ténèbres, c'est-à-dire à cette conception obscure de la fin des temps et du rôle que Dieu joue et du rôle que l'homme joue. Par l'incarnation, l'Éternel ne se contente plus de regarder l'histoire, de regarder ses créatures, ses actes du haut du ciel, si j'ose dire, mais il s'y met dans le temps. L'éternité se plonge dans le temps pour ne faire plus qu'un avec ce temps-là. C'est tout à fait révolutionnaire, c'est tout à fait fascinant. Et dès lors, ce Dieu éternel, qui vient par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, donne à chaque instant du temps un poids d'éternité. Jésus transfigure ce qui n'était alors que limité, marqué du péché, et voué à disparaître. C'est précisément en ça que consiste le début de la fin des temps. C'est d'une manière encore inaudible ou invisible, comme les évangiles des derniers dimanches en avaient fait, vous savez, quand il s'est levé, ce blé qui est mêlé à qui fait, choses qui ne sont pas véritablement tangibles, à l'œil nu. Voilà que ces choses-là, Jésus déjà transforme le monde, transfigure le monde. Et on ne relève pas pour un avenir plus ou moins certain, plus ou moins lointain de la fin des temps. La fin des temps, c'est maintenant l'Apocalypse commence, dès le moment où la Vierge Marie répond fiat à la danse de l'ange. Alors, dans son sein, l'Éternel se rend présent dans l'histoire. Et déjà, il commence à contaminer, d'une contamination combien bonne celle-ci, à contaminer l'histoire, à contaminer l'espace, à contaminer la matière, pour en faire quelque chose de divin. Et je crois que si le Seigneur Jésus nous envoie, et le faire plusieurs reprises dans cet évangile qui est un peu long, qu'en plus je vous ai fait la demande de chanter en latin, j'avoue que c'est tout ça est un peu long, alors peut-être que avez-vous décroché le fil du propos du Seigneur? Néanmoins, j'insiste sur un petit indice qu'il nous donne. Il nous demande surtout de ne pas scruter anxieusement les signes des temps, comme le faisaient les pharisiens plongés dans leur prophétie pour savoir le moment exact où le Messie allait advenir et donc la fin des temps. Notre mission à nous chrétiens ne consiste pas du tout à scruter dans les Écritures ou à scruter dans les signes du ciel ou les signes de la terre l'avenue du Fils de l'homme, son deuxième retour et donc la fin des temps. La fin des temps a déjà commencé, tout est opéré par le Fils, l'essentiel est fait, j'ai vaincu la mort. Je suis l'alpha et l'oméga, dit Jésus, je suis celui qui suis avant Abraham, je suis. Voilà ce que Jésus affirme, je suis l'Éternel, approchez-vous à moi et ne cherchez pas trop à comprendre, ne vous perdez pas dans toutes sortes de considérations qui ne sont pas du tout la finalité de la vie chrétienne. Ce que l'on nous demande, ce que demande le Seigneur Jésus, c'est que les aigles soient là où se trouve le corps. Expression mystérieuse, là où se trouve le corps, là seront les aigles. Je pense que vous n'y comprenez rien, la plupart du temps, en lisant cette phrase, il m'a fallu du temps pour comprendre, aller scruter les airs, pour le coup, et pour comprendre quoi, que ce corps en question, c'est le corps de Jésus. C'est ce corps qui nous contamine via l'Eucharistie. Nous sommes les aigles, nous sommes ceux qui avons accès à la vérité plénière, nous voyons les choses d'en par en haut, et nous n'avons que faire des signes après lesquels nous, tel ou tel esprit malade. Nous, ce qui nous importe, c'est d'être unis au Seigneur Jésus, communiant à son corps, son sang, son âme et sa divinité, et par la même, étant déjà entrés dans la présence, dans cette régénération de l'humanité que nous offre le Seigneur Jésus. Vous voyez que tout cela est magnifique, je crois, même si les mots sont faibles pour l'exprimer, même si mon cerveau est peut-être un peu longuet dans ce froid hivernal qui commence à poindre. Mais je crois que tout cela vaut d'être médité en cette fin d'année liturgique. Nous avons encore en fait une semaine pour que la véritable fin d'année liturgique advienne. Et dimanche prochain, nous entrerons dans ce temps magnifique de l'attente. Justement, nous revivons cette attente de l'humanité pécheresse, de cette humanité marquée par une vision cyclique de l'histoire pour les païens ou pour les juifs, par une vision encore imparfaite de la fin des temps. Nous allons revivre tout cela et demander au Seigneur Jésus d'accroître en nous ce désir de nous associer à son corps. Nous sommes des êtres, des frères, alors levons nos yeux, levons nos cœurs. Dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puissent.